C'est une œuvre de très longue haleine. Notre armée, vieille de 50 ans, a fait son âge, qui a connu des soubresauts, qui a connu des moments de gloire et qui a commencé à faire les frais de la gestion politique ici en Afrique, celle de faire de nos armées des armées de maintien de la paix. Le volet formation n'était plus orienté vers la structure de défense, ce qui a un peu désarticulé nos armées. Ensuite, il y a la politisation de la hiérarchie militaire qui est venue aussi saper le fondement des structures organisationnelles de l'armée. La démobilisation, il y a le niveau de formation, le niveau de recrutement, les principes au rabais qui ont contribué à désarçonner, à désaxer l'armée.
Elle a été sous-équipée aussi.
Jusqu'en 92, était une armée bien équipée comparée aux armées locales. Mais à partir de 96, avec la flamme de la paix, pour montrer sa bonne foi, le système politique à l'époque s'est mis à démanteler un peu l'arsenal militaire. C'était sous le régime du président Alpha Omar Conaré. Avec l'arrivée du général Amadou Toumani Touré en 2002, on n'avait aucun avion volant, ni avion de transport, ni avion de combat. Si nous étions parvenus à remettre en selle deux petits avions, deux MiG, à ma connaissance, et nous avons acheté des hélicoptères, des avions de transport de troupes. Ce n'était pas suffisant parce que les moyens étant limités, l'armée en a fait les frais.
Vous parliez de la flamme de la paix d'anciens rebelles Touareg qui ont été subitement promus au rang de colonel.
Oui, au nom de la paix, il y a eu beaucoup de concessions. Ça a été aujourd'hui la plaie de l'armée. Cette partie de l'armée qui est constituée des intégrés, ils sont partis aujourd'hui, échappent au contrôle des autorités militaires. Deuxième aspect, avec l'intégration du personnel féminin. Vous connaissez l'Afrique culturellement. Demander à une femme alors qu'un homme est là d'aller combattre sur le champ de bataille. Et là aussi, notre armée a été un peu fragilisée. Et cette autre partie de l'armée qui s'est rebellée, qui a fait la mutinerie et qui a organisé et perpétré le coup d'État, de façon vraiment involontaire, nous avons désaxé notre armée.
Le coup d'État a laissé une fracture ouverte entre Béret Rouge et Béret Vert.
Tout à fait, parce que le coup d'État, en fait, a démonté la chaîne de commandement. Donc une armée, c'est exactement comme un troupeau de bétail. Une fois que le chef militaire ou bien le chef du troupeau emprunte une voie, c'est tout le troupeau qui l'emprunte. Il y a une rupture dans la chaîne de commandement, une armée devient complètement vulnérable. Donc le problème qui oppose nos bérets, cet incident malheureux, ce n'est plus le moment de penser qu'on est avec ATT ou bien qu'on est avec l'autre. Quand un pays est en guerre, on n'essaie pas de situer les responsabilités. On gère, on essaie de circonscrire. On va au charbon pour essayer d'étouffer. Les revendications peuvent venir après. Chacun des régiments a son rôle à jouer. L'armée qui est constituée des bérets verts a son rôle à jouer. Par exemple, au niveau de l'armée de terre, les bérets rouges aujourd'hui, c'est des unités spéciales, peuvent épauler les autres unités spéciales qui sont là en train de nous aider à recouvrir le territoire. Je pense que c'est un faux problème dont les forces armées et l'encadrement militaire doivent se défaire immédiatement.
Aujourd'hui, un capitaine qui dirige la réforme, alors qu'il y a des colonels de haut rang, est-ce que ce n'est pas déjà une rupture dans la chaîne de commandement?
Ce comité de réforme est une structure administrative, elle n'est pas une structure militaire. Du moment qu'elle est rattachée au niveau de la présidence, elle devient de fait une structure administrative, donc normale et normative. Même un lieutenant, s'il a la capacité de diriger, de manager et de gérer, je ne vois pas le problème. D'autant plus que le capitaine Sanogo, s'il a la compétence ou s'il se fait entourer de compétences requises, en la matière, je pense qu'il pourra réussir sa mission.